Périscope, l'émission des littératures sous-marines, mais pas que. Au programme de Périscope aujourd'hui, Beijing Coma de Ma Jian, aux éditions Flammarion, et le retour tant attendu de la Minute Corse de François avec Wirne Maurice, aux éditions Albian.
Bien sûr.
Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Ma Jian. C'est un écrivain contemporain chinois qui a fait paraître aux éditions Flammarion en 2008 un livre donc qui s'appelle Beijing Coma. Alors Ma Jian, c'est un journaliste, un écrivain, un photographe qui ne vit plus en Chine parce qu'il a dû s'exiler. Il a vécu à Hong Kong, il a traversé le Tibet dans une sorte de voyage initiatique pendant 2 ou 3 ans. Et puis maintenant, donc, il est en Angleterre, c'est sa femme qui traduit ses livres. Et on vient d'avoir la traduction en français à partir de l'anglais, hélas, ce qui aplatit un peu la langue. C'est une paresse éditoriale un peu désastreuse. Mais enfin, le livre est vraiment, vraiment très puissant. Et voilà pourquoi je vous en parlerai aujourd'hui. La place Tiananmen est au cœur de Beijing, Pékin pour les Occidentaux. Et elle en est le symbole. C'est là que se dresse la cité des empereurs ancestrales et le portrait immense de Mao, d'un kitsch rouge et lisse. En Chine, dit Ma Jian, le burlesque et la tragédie se côtoient toujours. La place Tiananmen évoque aussi, pour beaucoup, l'image d'un étudiant faisant face à un tank qu'il a pris pour cible. Mais pas pour les internautes chinois qui, grâce à un accord passé entre Google et le gouvernement, n'ont le droit d'y voir qu'une place grandiose offerte à la déambulation tranquille de quelques familles modèles. Ni bien sûr pour tous ceux qui ont oublié le massacre de la place Tiananmen au profit de la grand-messe des Jeux Olympiques, car la dictature a pour elle une arme plus puissante encore que la terreur, c'est l'amnésie collective. Dai Wei, le héros et le narrateur de Beijing Coma, se souvient, lui. La mémoire est même tout ce qui lui reste. 4 juin 89, massacre de la place Tiananmen. Étudiant insurgé, il était là quand l'armée a exterminé des centaines de civils. Il y a laissé un morceau de son cerveau, emporté par une balle policière, et stocké dès lors dans un réfrigérateur à l'hôpital. C'est en fait une double chance. D'abord parce qu'il n'est pas mort, contrairement à beaucoup d'autres. Ensuite parce que le coma dans lequel il va rester plongé pendant 10 ans lui permet d'échapper à la répression qui a suivi le massacre. Les autres survivants, quand ils n'ont pas réussi à quitter le pays, sont envoyés dans des asiles psychiatriques ou exilés loin de la capitale. Beaucoup des étudiants qui ont participé aux manifestations ont vu leur famille renvoyée de leur poste, ou bien celle-ci les renie et approuve publiquement la répression. Rédiger des autocritiques et des attentes sentiments est une vieille tradition. Dai Wei, lui, est soigné en cachette par sa mère, la police les surveille certes, mais sa vigilance est moindre puisqu'il est considéré comme moins dangereux encore qu'un mort. Pendant 10 ans, donc, Dai Wei reste enfermé dans son corps, sans pouvoir bouger ni parler. Une décennie durant laquelle la Chine opère la mutation spectaculaire qu'on connaît. Libéralisation de l'économie et capitalisme sauvage, spéculation immobilière délirante, invasion des téléphones portables et de la télévision, expulsion des immigrants et des pauvres pour construire des centres-villes hygiéniques. Et puis aussi les Jeux Olympiques, refusés en 87 par la communauté internationale à cause du mépris des droits de l'homme, mais fêtés en grande pompe cette année, on s'en souvient, par cette même communauté qui ne veut plus dédaigner les milliards d'une nouvelle superpuissance économique, alliant le capitalisme le plus débridé et le contrôle sans âge d'un État policier. 10 ans, c'est aussi le temps qu'il a fallu à Ma Jian pour écrire ce livre, politique au sens large, parce qu'il fait du corps de Dai Wei la métaphore et le paradoxe d'un pays. Beijing Coma, c'est le coma de Dai Wei et aussi celui de Beijing. Enfermé dans sa tombe de chair, la mémoire de Dai Wei reconstitue minutieusement les événements qu'un pays, engourdi et mutique, a choisi d'oublier. Tout au fond de lui, guette et survit la parole de Dai Wei, prête à surgir. Son corps silencieux et carcéral reste le seul espace possible de liberté et de subversion. Cloué sur son lit de malade, Dai Wei est un légume, incapable de la moindre réaction visible, mais dont l'esprit continue à fonctionner pour sentir et nous raconter. Les escarres, bribes de conversation, le bassin d'urine à vider, les perfusions de glucose, les thérapies variées. Pressée de le voir mourir, la mère soigne son fils avec une opiniâtreté sans tendresse. Persécutée finalement autant que les dissidents, elle est une citoyenne ordinaire, à la fois docile et têtue, qui plie sans cesse et finira par casser, malgré l'adage. Progressivement, le corps s'effrite et se nécrose. La mère vend l'urine puis le rein de son fils pour pouvoir continuer à payer les soins. Une infirmière puis un étudiant font l'amour à ce demi-cadavre. Décidément, le burlesque côtoie le tragique, comme dans Nouilles chinoises, un autre roman de Ma Jian, dont le héros a monté une petite entreprise de vente de sang très lucrative mais bien peu sanitaire à l'heure du sida. Ce récit au présent du quotidien effarant de Dai Wei et de sa mère alterne avec le récit rétrospectif des souvenirs de l'enfance jusqu'au massacre de la place Tiananmen. Dai Wei retrace son histoire qui est aussi celle de la Chine, mais à échelle humaine. Suicide de son grand-père, dépossédé de ses biens pendant la révolution culturelle. Déportation de son père, accusé de droitisme et qui revient des camps brisés après avoir connu la torture, la famine et le cannibalisme. Ses enfants le méprisent et la maîtresse d'école les juge trop souriants pour des fils de droitistes. La mère de Dai Wei, chanteuse d'opéra, est-elle une fervente du parti, mais la réputation de son mari a ruiné sa carrière. Puis ce sont pour lui les années à l'université, la lecture du journal intime de son père et les manifestations étudiantes de soutien aux réformistes contre la politique réactionnaire de Deng Xiaoping. Les étudiants s'organisent et se divisent aussi dans des querelles de petits chefs. Dai Wei, lui, se méfie des rhétoriques comme des symboles. Il s'occupe juste de la logistique en préférant se tenir à l'écart des grands discours mobilisateurs ou sacrificiels comme des petites tentations dictatoriales des chefs étudiants autoproclamés. Lui, donc, se contente de s'occuper de la sécurité. Si bien que le récit des événements laisse de côté l'analyse politique au profit d'une relation stratégique, heure par heure, de ce qui s'est passé en ce mois de juin 89. Les mouvements de foule, les décisions chaotiques, l'entente angoissée, les explosions de ferveur unanimiste, le silence menaçant du pouvoir, les slogans, les poèmes, les opportunismes et les naïvetés. Dai Wei prend le pouls de Tiananmen, qui s'accélère d'heure en heure jusqu'au moment du massacre. Les deux récits, donc celui du quotidien et celui des souvenirs, convergent ainsi vers la coïncidence ou la superposition de deux points culminants. La seconde où la balle est entrée dans la tête et la seconde où Dai Wei, miraculeusement, sort enfin du coma. Mort et résurrection, brutalité et espoir, répression et libération. Dai Wei, parfois, pourtant, échappe à son corps, comme la pensée parfois échappe au corps politique et à son contrôle. Le roman est ainsi traversé de passages écrits en italique qui sont autant d'échappées vers un espace imaginaire, libre. Dans sa première vie, qui a précédé le coma, Dai Wei était étudiant en biologie et lisait assidûment un recueil de légendes merveilleuses, le Livre des Monts et des Mers. Il voulait parcourir la Chine pour retrouver cet itinéraire légendaire et donner un nom dans la réalité aux espèces chimériques qui peuplent le livre. Immobile maintenant sur son lit, Dai Wei parcourt cette cartographie imaginaire et lui substitue un voyage intérieur sur la carte de son corps. Vie des tissus, dégénérescence des cellules, coagulation, circulation du sang, communication nerveuse, remontée des sensations, éblouissements éphémères, l'anatomie est une topographie fabuleuse. Les transitions en italique sur cette infime vie silencieuse des lambeaux du corps et les extraits du livre, des monts et des mers, sont sur le même plan. Le passé légendaire, les tératologies et les fantasmagories rejoignent les noms fantaisistes de la médecine, cochlée, cortisol, oxygène, qui innervent ce corps hybride devenu aussi improbable que les chimères d'un pays de nulle part. Se juxtaposent ainsi deux univers hors du temps, soustraits à l'histoire et plus puissants qu'elle, dans ce double langage absolument libre, archaïque, organique et silencieux. La mémoire de Dai Wei et celle de la Chine circule lentement dans ce corps, comme l'écoulement sanguin, les souvenirs fermentent et s'échappent par bulles, et la vie revient avec l'imagination. Dans Beijing Coma, les vivants sont trop occupés à courir vers la mort ou vers la fortune. Mais Dai Wei, lui, incapable de bouger et de communiquer, se réapproprie lentement son être et revient à la vie par la mémoire qui circule en lui et presque malgré lui. Alors, et alors seulement, il retrouve la parole. Et sa parole devient témoignage de son histoire, de l'histoire et de la Chine.
Merci Aude pour ce compte rendu de Beijing Coma. Compte rendu, c'est un peu plat comme mot, c'est très vilain. Je vous propose donc de sortir de votre corps enfin et de vous plonger dans Beijing Coma de Ma Jian aux éditions Flammarion, là pour le coup. Et puis François.
Oui, alors, chers auditeurs, à l'heure où vous écoutez nos voix enregistrées, nous sommes en novembre. Et bien évidemment, vous vous souvenez très bien de l'émission de Périscope du mois dernier. Et c'est assez merveilleux comme quoi tout se tient. On vous a présenté en octobre le livre par Valou, Le jour où Nina Simone a cessé de chanter, qui se passe au Liban, avec le corps de cette femme hein, qui réagit de toute façon, de toutes les manières, pour être libre. Et puis, vous venez d'entendre effectivement la belle analyse de Beijing Coma avec le corps de ce Chinois endormi. Et je vais vous présenter, alors, mais très rapidement, puisque c'est la Minute Corse, donc il faut que je fasse très très vite, c'est toujours comme ça avec les minorités, hein, on a très peu de temps, on est visible, mais pas trop. Donc, un livre, alors je ne sais pas si vous avez 15 euros à perdre, perdez-les là, voilà. Achetez ce livre. Sur Internet, vous allez sur le site d'Albiana, A-L-B-I-A-N-A, Albiana, éditeur corse. Merveilleux, on le dira plus tard, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et ce livre s'intitule « Vir Nemoris ». C'est du latin. « Vir Nemoris », si vous voulez. « L'homme des bois ». Et il s'agit de l'expression qu'on trouve à un moment donné dans ce texte latin. Et oui, je vous demande d'acheter un livre en latin. N'ayez pas peur, il y a la traduction en français avec. La traduction est très bonne d'ailleurs. Et ce livre a été écrit par Giuseppe Ottaviano Nobili Savelli. Giuseppe Ottaviano Nobili Savelli. Ça fait beaucoup pour un seul homme, mais c'est a associé le nom de sa femme avec le sien, donc ça faisait un peu plus mieux, hein, si j'ose dire. Et voilà, donc, qu'est-ce que ce texte ? Ce texte, c'est une épopée en latin, inachevée, qui parle d'un guerrier corse du XVIIIe siècle, qu'on a retrouvé mort au bout de son errance dans la montagne, dans les bois, oui, en Émorice, l'homme des bois, l'homme du bois sacré. Et homme qui est mort après cette errance parce qu'en fait il combattait contre l'armée française. Alors je vous replace le contexte historique, tout le monde sait que la Corse a été conquise militairement par la France au XVIIIe siècle, en 1769 très précisément. Pendant 2 ans, cet homme, Circinello, le curé de Guagno, a prêté serment devant ses ouailles et a dit « je ne me rendrai jamais ». Voilà, toute l'affaire. « Je ne me rendrai jamais, je n'accepte pas, comme il dit au début du texte, l'anéantissement de ma patrie. » La Corse était un pays indépendant à cette époque-là. « L'anéantissement de ma patrie et je pars dans les errances. » Erroresco et meos, dit-il dans la première page. Donc, lisez ce texte parce que nous avons affaire à un texte, bien évidemment on peut le regarder comme ça, c'est-à-dire c'est de la littérature en langue latine, ça fait partie de cette littérature universelle de ces honnêtes hommes-là qui sont des latinistes émérites et qui passent par la langue élevée pour dire quelque chose d'élevé. Or, c'est un texte, c'est ce que je soutiens, c'est un texte absolument actuel qui parle de la Corse aujourd'hui et d'une façon assez étonnante. Non pas simplement pour dire, attention, oui, oui, la résistance, la nation corse, l'anéantissement ou des choses comme ça, qui pourraient correspondre à un discours nationaliste, on peut en rediscuter, mais dans un autre sens, dans le sens d'une parole très spéciale, d'une parole de nuit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y a eu une édition des Antillais, écrire la parole de nuit. Écrire la parole de nuit, puisque les Antillais prennent référence sur la parole, justement, ou du griot africain, ou de l'esclave qui parle la nuit, qui a enfin droit de parler la nuit. Que fait cet homme, Circinello ? Il part dans les montagnes, dans les bois, à la fois refuge, éden, nature merveilleuse, havre de paix, et en même temps nature très sauvage, difficile, hostile. Et là, il vit la nuit. Il se déplace la nuit. Et il le dit au début, il se met sous l'égide de la lumière de la lune. Et cette lumière de la lune, c'est la seule chose que je vais vous lire du texte. C'est la lumière d'Artémis, bien évidemment. Nous sommes dans l'épopée latine. Il y a de la mythologie avec. D'ailleurs, il y a un mélange assez amusant de mythologie et de religion. C'est plus mythologique que religieux. Et voilà ce qu'il écrit. Astrorum terraeque decus, soror incluta phobi, tu de aqua evales crispato lumine ad umbras. Traduction, Simon. Honneur des astres et de la terre, illustre sœur de Phébus, toi, déesse, qui plonge les vallées dans l'ombre de ta lumière ondoyante. Ombre de ta lumière ondoyante, crispato lumine. Cette lumière crispée, magnifique, et c'est ce qui baigne tout le texte. Tout se passe, ce qu'il dit, ce qu'il fait, des combats. Hein. Il y a de l'action, vous inquiétez pas. Il y a sa fille qui vient avec lui, elle envoie un gros caillou, il y a de la cervelle qui se répand par terre, et puis ils errent dans les montagnes, et puis ils vont voir Ponteno, ils pleurent ensemble, ils font des chants de louanges, et puis après il y a le traître, il y a le français, enfin le monstre, l'ennemi qui vient pour parler, soi-disant. Et puis il y a le fameux discours, pendant toute une nuit, hein, de ce Circinello à cet émissaire français. Cette parole de nuit comme ça qui occupe quasiment tout le deuxième champ. Donc c'est absolument magnifique parce que ça travaille dans une forme qui est absolument terminée. Hein, c'est fini, plus personne ne peut écrire. Mais oui, Valou, tu me montres judicieusement la montre. Le temps est imparti et très limité. Donc, le Oui en est Maurice, ce que je peux vous dire, allez voir ce texte parce que c'est absolument extraordinaire. Je veux dire, dans quelle littérature, à part la littérature corse, il faudra me démentir. Est-ce qu'on peut lire un texte latin du XVIIIe siècle avec autant de plaisir ? Je ne sais pas. Donc, l'occasion est immanquable. Allez sur le site d'Albiana, A-L-B-I-A-N-A. Vous pouvez commander le livre. Vous pouvez dialoguer avec l'auteur. Je vous donnerai, si vous voulez, appelez-moi et je vous donnerai le mail de François-Michel Duratz, ou bien sûr, hein, il faut que je dise le nom du traducteur, oui, bien évidemment, qui est merveilleux, avec une belle préface de Marco Cini, intitulée La faible voix des vaincus. Voilà. C'est très bien, donc, ce livre pour remettre en scène un corps souffrant et sa parole, sa parole de nuit, et aussi pour lutter contre une amnésie collective qui frappe la Chine, visiblement, et retrouver une profondeur historique que des fois, notre langage a tendance à oublier. Voilà. Donc, je redonne la parole à Volou, je vous remercie, et je vous retrouve le mois prochain avec toute l'équipe de Periscope.
Qu'est-ce qu'il est polyglotte maintenant, ouais. François, et nous parlons latin.
Très, 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 très fort, très beau.
Oui, merci.
Très mélodieux. Et parfois, on retrouvera François. Voilà, dans la 5 minutes corse. Pour l'instant, c'est l'heure de se quitter. Aujourd'hui, nous vous avons présenté Beijing Coma, Magiane aux éditions Flammarion et Weir Nemoris, merci François, aux éditions Albian. Donc, bonne lecture et bonne réflexion. Et au mois prochain. Au revoir.